Je présente maintenant notre conférencière aujourd'hui. Il s'agit de Claire Blanche Benveniste, qui est née en 1935. Elle est professeure à l'Université de Provence et directrice d'études à l'École pratique des hautes études de Paris. Elle a travaillé sur la syntaxe et publié de nombreux articles dans des revues spécialisées. Elle s'intéresse aussi au rapport entre langue écrite et langue parlée, au développement historique des langues. Elle a publié récemment des études sur le français parlé, études grammaticales aux éditions du CNRS en 1990, et puis une approche du français parlé en 1998 chez Ofris. Elle va nous parler aujourd'hui de la linguistique descriptive au XXe siècle. Et je lui donne tout de suite la parole. Merci.
J'ai choisi de parler de la linguistique descriptive parce qu'il me semblait que c'était une bonne entrée dans les problèmes qui ont agité toute la linguistique dans le monde entier pendant ces dernières années. La linguistique descriptive est la discipline qui se donne pour objet la description des langues du monde. Et elle est évidemment concernée de très près par un double problème, la très grande diversité des langues du monde et l'universalité du langage en tant que tel, qui est une caractéristique humaine. Comment équilibrer la description de la variété, de l'incroyable variété des langues et la nécessité de poser qu'il y a quelques structures universelles. Sur ce problème, les écoles linguistiques se sont affrontées et continuent à s'affronter actuellement. Et il me semble que ces affrontements sont intéressants et qu'ils nous apprennent beaucoup. Il s'agit aussi de savoir si la description des langues est achevée. Est-elle terminée ? Reste-t-il des langues à décrire encore maintenant ? Et sur ce point, je vais vous présenter des prises de position qui vont soit dans le sens de la diversité, en disant nous ne sommes pas prêts encore à présenter des caractères universaux sérieux, soit au contraire, des prises de position qui vont dans l'autre sens et qui disent nous avons suffisamment décrit les langues, il faut maintenant passer à la sphère de l'universel. Alors voici par exemple, du côté de la diversité, Antoine Meillet, grand linguiste français au début du siècle, chaque langue est un système de signes aussi particulier que peut l'être une nation. Ou bien, à propos de la description des langues indiennes d'Amérique, les langues peuvent différer sans limite. Ça, c'est du côté de la diversité. Encore tout récemment, une prise de position, par exemple, dans une revue de l'INALCO, le spécialiste d'une langue exotique constate trop souvent que la complexité des données de la langue qu'il étudie a été sacrifiée pour répondre à des impératifs théoriques ou taxinomiques. Vous voyez tout de suite le début d'une controverse. Sacrifier les données, la complexité des données, pour passer à un exposé théorique. Du point de vue de l'universalité, voici au contraire des prises de position. Par exemple, Chomsky, bien sûr, c'est toute l'école générativiste de Chomsky qui est de ce côté. Le but de la linguistique est la recherche des propriétés formelles de toute langue humaine possible, permettant d'éclairer la nature des capacités intellectuelles humaines. Alors, il faut dire que le débat est particulièrement important dans la mesure où on a affirmé au XXe siècle que le langage était la meilleure approche du fonctionnement intellectuel. C'est-à-dire que dans la perspective de Chomsky, l'étude du langage débouche sur les sciences cognitives. Et d'ailleurs, la linguistique fait partie des départements de sciences cognitives dans cette perspective-là. Donc l'enjeu est assez considérable. On a fait parfois, assez souvent, le rapprochement entre les langues, la diversité des langues, et les espèces animales, la diversité des espèces animales. Sur ce plan-là, voici, par exemple, une prise de position d'un disciple de Chomsky, Pinker, qui vient d'être traduit en français, et qui dit « La grammaire universelle que propose Chomsky est comme l'archétype d'un plan d'ensemble du corps que l'on retrouve dans un grand nombre d'animaux. » Il semble qu'il y ait un plan commun dans les règles et dans les principes de la syntaxe, de la morphologie et de la phonologie, avec un très petit jeu de paramètres variables. Tout est là, très petit jeu de paramètres variables, comme une liste d'options. On peut rapprocher ça de ce que disait François Jacob dans ce même endroit, dans la première conférence de cette série de conférences. Le monde vivant comprend des bactéries et des baleines, des virus et des éléphants et des organismes vivants dans des régions polaires à moins 20 degrés, mais tous ces organismes présentent une remarquable unité de structure et de fonction. Donc François Jacob plaidait pour une unité fondamentale des espèces vivantes. Et il y a un grand débat pour savoir si on peut rapprocher les langues de ce problème des espèces vivantes. Je vous donne une opinion contraire qui dit « Si le réductionnisme est indéniablement utile pour la biologie, réductionnisme, c'est-à-dire aboutir à un certain nombre de principes et très peu de variations, s'il est indéniablement utile pour la biologie ou pour la chimie et la physique, il a représenté un danger mortel quand on a voulu l'appliquer à la linguistique. » C'est donc une opinion complètement inverse. Alors, je voudrais aborder le problème immédiatement de la diversité des langues. Qu'est-ce que cette fameuse diversité des langues? Depuis quand s'en occupe-t-on? Il me semble important de montrer qu'on s'en occupe pour les langues exotiques, aussi bien que pour les langues familières. Ah non, c'est là, pardon. J'ai l'habitude d'être transparent. Donc, parmi les premières transcriptions, ce qui est important à voir, c'est qu'on a fait les premières grammaires des langues vulgaires en même temps que les premières descriptions des langues exotiques. Autrement dit, les grammaires du français, de l'anglais, de l'espagnol sont contemporaines à peu près des grammaires des langues exotiques. 1492 est une date représentative, Christophe Colomb découvre l'Amérique, c'est la première grammaire de l'espagnol, de Nebrija. Et tout de suite après, quelques années plus tard, vont commencer à arriver les grammaires rapportées par les explorateurs. Grammaire des langues d'Extrême-Orient, grammaire des langues indiennes d'Amérique. Par exemple, et c'est à ce moment-là, pardon, que se met en place justement le concept de grammaire générale que met au point Port-Royal. On découvre des langues dont on ne connaissait absolument pas la formule et on se dit qu'elles doivent être sous-tendues par un modèle général qui est bien représenté dans le grec et le latin et l'hébreu. Les seules grammaires admises jusqu'à cette époque, des grammaires vulgaires, c'étaient les grammaires de l'hébreu, du grec et du latin. Les autres langues avaient été considérées comme des sortes de patois, qui ne méritaient pas une description linguistique en tant que telle. Et Port-Royal théorise tout cela, avec une théorisation qui sera reprise par Chomsky, pour dire qu'il y a des principes généraux derrière toutes ces grammaires particulières. La première grammaire, pour vous donner une indication de date, la première grammaire imprimée d'une langue d'Amérique date de 1558, c'est donc assez tôt, si on pense que la première grammaire du français est de 1530, c'est donc peu après la première grammaire descriptive du français. Et évidemment, les voyageurs découvrent des choses qui les étonnent. Ils vont tout calculer en termes de manque ou de surplus pendant un certain temps. Par exemple, pour le chinois, ici, qui est la langue par excellence qui va les étonner, principalement à cause de l'écriture, ils vont dire des choses très naïves de ce genre. En chinois, la lettre, la syllabe et le mot sont une seule et même chose. Voici un exemple de ce qui provoquait ce genre d'étonnement, c'est qu'évidemment, en chinois, si on prend le caractère qui dit « parler », il suffit de mettre sur la gauche de ce caractère la clé qui dit « l'homme » pour obtenir « homme plus parler égale confiance », etc. « Confiance plus marcher égale disciple », par exemple. Alors, on s'extasie sur ces choses-là, mais on dit en même temps il y a une drôle de confusion, ce n'est pas une langue comme les autres langues. Un autre exemple à partir du mot « arbre ». On s'extasie beaucoup sur le mot qui dit « arbre »,« mou », et qui, affecté d'un petit indice qui dit « l'enfant », qu'on a placé dessous là, veut dire le prunier, parce que le prunier est vu comme l'arbre des enfants. Et puis la valise, pourquoi ? Parce que si on ajoute voyager, c'est la valise parce qu'on faisait les valises en bois de prunier pendant longtemps, etc. Tout le monde s'extasie sur la bizarrerie d'une langue comme le chinois. On va projeter sur les langues qu'on décrit les techniques des langues anciennes, grecques et latin. Par exemple, même pour décrire les articles dans les langues comme le français, l'anglais, l'espagnol, on va penser que les articles servent à faire la déclinaison des noms. Et on va installer comme ça des déclinaisons nominatifs, la table, vocatif, au table, accusatif, la table, génitif, de la table. Et pendant longtemps, on va projeter ce modèle des déclinaisons latines sur toutes les langues qu'on a à décrire, en pensant que, bon, elles ne font pas ça de la même façon que les langues classiques, elles ont d'autres procédés. Mais vous voyez bien qu'en faisant cette démarche, on projette sur toutes les langues qu'on décrit le modèle des langues classiques de l'Europe. Et il faudra longtemps pour s'en défaire. Il faudra longtemps pour éviter de projeter sur les langues dites vulgaires comme le français, l'anglais ou l'espagnol le modèle latin. Il faudra très longtemps pour éviter de les projeter sur les langues exotiques. Pendant très longtemps, les descriptions qui revenaient d'Amérique ou d'Asie ont continué à être en termes de manque. Par exemple, les jésuites qui rapportent les relations du nord du Canada, les relations des jésuites qui décrivent les langues, regrettent que ces langues aient trop de mots pour dire les temps différents, un excès de conjugaison en quelque sorte, mais pas assez de mots pour dire les vertus chrétiennes. Bon, voilà, manque et excès. Bon, c'est un peu caricatural, ça s'est mis en place petit à petit. Le nombre des langues du monde aujourd'hui, fin du XXe siècle, on s'entend en général pour dire environ 6 000 à 7 000 langues. Vous pouvez trouver des estimations plus basses. Ça dépend du calcul, du type de calcul qu'on va faire. D'abord, il s'agit de savoir quelle distinction on va établir entre langue et dialecte, bien sûr, et c'est sujet à controverse. Et puis, il s'agit de savoir ce qu'on retient comme langue. Si on ne retient pour l'Afrique, je vous montrerai tout à l'heure, que des langues qui sont parlées par plus d'un million d'habitants, ça va faire peu. Mais si on accepte les langues qui sont parlées ne serait-ce que par un locuteur actuellement, alors on arrive à 6 ou 7 000. Et il y a des langues qui meurent quand meurt le dernier locuteur. On voit mourir actuellement sous nos yeux des langues du Caucase, par exemple. On voit mourir des langues d'Amérique du Sud. Et il y a des prédictions un petit peu terribles qui sont faites sur l'extinction des langues qui se déroulent vraiment sous nos yeux. Certains prédisent que d'ici 20 ans, 90% des langues du monde auront disparu et qu'il ne restera que les grandes langues à grande diffusion. Donc, on assiste depuis quelque temps à l'émergence du concept de langue en danger. Il y a des appels au secours pour décrire vite, avant qu'elles ne disparaissent, les langues pour lesquelles il reste très peu de locuteurs. Voici un exemple des répartitions de langues qui peuvent étonner quand on n'en est pas au courant. Vers 1920, il y avait 1000 langues indiennes d'Amérique du Nord. Il en reste évidemment très peu, on sait ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique du Nord. En 1990, 500 langues indiennes d'Amazonie et des Andes, mais certaines ne sont parlées que par moins de 100 locuteurs, et ce sont les langues en danger. 300 langues dans le territoire seul du Soudan. L'Afrique est un pays extrêmement multilingue. Sur le plan officiel, en 1980, 70 langues non slaves, en plus des langues slaves, étaient retenues pour les publications en URSS, ce qui fait beaucoup. 25 langues sont actuellement admises au Parlement chinois, admises comme langue officielle, s'entend. Et si on regarde certaines régions du monde, on s'aperçoit que le multilinguisme est quelque chose d'énorme. Nous sommes mal placés en Europe occidentale, où nous avons tendance à penser qu'un pays égale une langue. Je vous montre très rapidement quelques documents sur l'Afrique. Voici, si on prend les grands groupes de langues, voici une première répartition où on voit vraiment les grandes familles de langues parlées sur l'Afrique. Si on entre un tout petit peu plus dans le détail, on va entrer dans des familles où on va voir que ça se diversifie à l'intérieur de petites régions. Maintenant, si on entre plus dans le détail, je ne sais pas si vous verrez le document, mais dans les langues ne serait-ce que du golfe du Bénin, il y a un certain nombre de langues qui sont concentrées sur des pays à très petite population. On peut voir dans le golfe du Bénin des pays qui ont 3 ou 4 millions d'habitants tout au plus et qui ont 40 langues à l'intérieur. D'autant que la colonisation a coupé les pays nord-sud et que les langues s'étendent est-ouest, d'où le résultat de cette énorme concentration du nombre des langues. Diversité des langues, bien la diversité des langues a beaucoup étonné, ça a été un sujet de réflexion. Je vous donne quelques exemples bien connus. On s'est étonné des propriétés de prononciation d'abord. Des langues qui ont 35 consonnes et d'autres, comme les langues polynésiennes, qui n'en ont presque pas. Des langues qui n'auraient que des mots monosyllabiques, comme le chinois, qui est réputé, ce n'est pas tout à fait vrai, qui avait la réputation de n'être que monosyllabique, et d'autres comme les langues inuites, les langues des Esquimaux, qui donnent l'impression de n'avoir que des mots-phrases qui peuvent faire des vingtaines de syllabes, non séparables les unes des autres. Des langues qui ne distingueraient pas les noms des verbes, c'est une question très controversée, est-ce que c'est vrai ? Des langues qui ne conjuguent pas du tout leurs verbes, alors là c'est vrai, le chinois ne conjugue absolument pas, d'autres qui les conjuguent avec un luxe de détails, en y mêlant par exemple la position spatiale du locuteur par rapport à ce dont il parle. Des langues qui utilisent l'ordre des mots de façon pertinente pour le message qu'elles donnent, et d'autres qui n'utilisent pas du tout l'ordre des mots. Alors, évidemment, tout ceci réclame description. Depuis quand fait-on des descriptions modernes ? Je vous donne quelques petites indications parce que l'histoire des descriptions est importante. Un avis du linguiste Bollinger qui dit que le descriptivisme a dominé le siècle jusqu'aux années 70. Je pense qu'il a tout à fait raison. Ceux qu'on a appelés les grands descripteurs, ce sont ceux qui se sont attelés à la description des langues indiennes d'Amérique, du Nord et du Sud, qu'on a appelées les langues amérindiennes. C'était des anthropologues linguistes. Les grands noms sont ceux de Boas et de Sapir au début du siècle aux États-Unis. Ils créent des revues, ils créent des congrès internationaux et un certain nombre de missionnaires protestants s'engagent dans l'aventure et commencent à décrire les langues indiennes. Je vous marque le chiffre, en 1971, ils avaient décrit 500 de ces langues indiennes. Autre petit repère, la fondation de l'école de langue africaine et orientale, la constatation que toutes les langues ne sont pas décrites vers les années 1933, au milieu du siècle, une question posée, existe-t-il des catégories qui soient communes à l'universalité des langues humaines ? C'est exactement la question que j'apporte. Et la production d'outils de travail, dont le plus célèbre est peut-être celui de Harris, pour les méthodes dans la description structurale. On développe à ce moment-là des méthodes d'analyse, dont la plus célèbre dans ces écoles pour les langues amérindiennes a été l'analyse distributionnelle. L'analyse distributionnelle a été quelque peu galvaudée dans des ouvrages pédagogiques par la suite, mais l'intention était la suivante, c'était de donner des méthodes reproductibles de description des langues, c'est-à-dire qu'un enquêteur pouvait revenir et recommencer avec les mêmes méthodes, établir des classes, établir des catégories. Le principe intéressant, c'est de ne plus considérer que les catégories des langues classiques sont inscrites dans toutes les langues du monde, mais de faire émerger une grammaire à partir de la langue qu'on considère. Alors, c'est à ce moment-là que, par exemple, pour la description des prononciations des langues, on dégage les principes fonctionnels. Un B n'est pas la même unité selon que dans une langue il s'oppose ou pas à un P. C'est le cas dans la plupart des langues arabes actuellement, par exemple. Un présent n'a pas la même valeur selon que dans la langue, il s'oppose à un futur ou pas à un futur. Donc, on va en retirer l'idée que les unités ne sont pas toujours directement comparables parce qu'elles ne se trouvent pas dans la même disposition, dans la même distribution. On établit des catégories de langues. Alors, je vous cite par exemple quelque chose de très connu qui sont les types morphologiques. On dégage des langues qu'on appelle flexionnelles, qui sont celles comme le grec et le latin, toutes les langues à désinence. Le mot domine n'existe pas en latin, Il existe dominus, dominé, autrement dit, le mot isolé n'existe pas. C'est l'inverse des langues isolantes, comme le chinois, où pour dire, par exemple, un ami, on dit penyu, pour dire plusieurs, on dit men, et pour, comme il n'y a pas de pluriel sur les noms, pas l'équivalent de nos pluriels, pour dire des amis, eh bien, on mettra amis plus plusieurs après, qui va fonctionner de la même façon. Mais ça ne touche jamais à la forme du mot lui-même. C'est un mot séparé. On a dégagé aussi le groupe des langues agglutinantes, comme dans le représentant le plus proche de nous est le turc, qui donne un radical, et sur la droite de ce radical, après ce radical, on peut inscrire une série de suffixes qui souvent donnent l'équivalent de ce que nous avons dans nos langues par des phrases complexes. Je prends le dernier exemple. Se faire être aimé l'un de l'autre va se dire par un seul mot dans la langue turque, à partir du radical du verbe « sev » aimer. Et évidemment, ce qui a le plus surpris les Européens, ce sont des langues comme les langues esquimaux, qu'on appelle les langues polysynthétiques. Alors la langue inuite, vous reconnaissez « igloo », la maison, que nous avons emprunté, mais pour dire « nous sommes dans la jolie petite maison de neige », eh bien, on prend toute cette série que je ne vous prononce pas. Les amis que je connais qui sont spécialistes de langue inuite m'expliquent qu'il faut rééduquer sa respiration pour arriver à prononcer les grands mots-phrases de l'inuit, qui font quelquefois deux lignes dans les transcriptions que nous en donnons. On a développé aussi des types syntaxiques qui sont devenus assez célèbres. Par exemple, on a appris à distinguer les langues qui ont un verbe à l'initial, ce qu'on symbolise par VSO, verbe sujet-objet, à verbe final, le cas par exemple du japonais, ou à verbe médian, sujet-verbe-objet, ce qui est le cas du français actuellement. Et on a essayé de rattacher des caractéristiques à ces grands types-là. Autrement dit, selon la position canonique du verbe, on peut prédire un certain nombre de propriétés de ces langues. Alors, la description de la diversité. Description de la diversité des langues, on le fait maintenant d'une toute autre façon qu'on ne le faisait auparavant. Je vous donne l'exemple des fonctions. Qu'est-ce qu'un sujet ? Pour nous, un sujet, c'est l'homme, aussi bien dans l'homme est courageux, en bonne santé, que dans l'homme est jaloux, malade. Autrement dit, le fait que le verbe soit positif ou négatif, soit bénéfactif ou détrimentif, ne compte pas. C'est un sujet quand même. Mais dans beaucoup de langues, Ajège décrit la langue mort, dans beaucoup de langues, le sujet n'a la marque de sujet que si c'est positif. Avec un verbe négatif, il sera complément, c'est-à-dire que pour dire l'homme est jaloux, on dira la jalousie est dans l'homme. On ne peut pas dire l'homme est jaloux. Donc, dès que le prédicat est négatif, la fonction va changer. Autre description des possessifs. Ça, c'est un exemple dans une des langues amazoniennes du Brésil. On doit choisir, quand on veut utiliser un possessif, imaginez que vous vouliez dire, par exemple, mon chapeau, mon gâteau, mon bol. Vous devez choisir un possessif différent selon que vous estimez que c'est une possession durable ou une possession en usufruit. Ou bien que c'est une possession destinée à l'alimentation ou pas, que c'est une possession que vous avez acquise par la violence ou pas. On est obligé, on ne peut pas tout simplement éviter de choisir pour ce possessif. D'où cette idée que ce qui fait la spécificité souvent des langues, c'est ce qu'elles vous obligent à choisir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, prenons un exemple en français. En français, nous avons un genre dans les noms, qui est un genre non motivé. Nous disons un fauteuil, une chaise. Personne ne s'amuse plus aujourd'hui à chercher un principe masculin dans le fauteuil et féminin dans la chaise. Mais nous sommes obligés, nous ne pouvons tout simplement pas utiliser fauteuil et chaise sans nous préoccuper du genre du nom. Eh bien, dans ce genre de pression sur le choix obligatoire se retrouve par exemple dans beaucoup de langues en ce qui concerne les couleurs. Dans beaucoup de pays d'Afrique, on doit choisir, si on veut dire blanc, entre blanc brillant et blanc mat. Noir n'existe pas, il existe noir brillant ou noir mat. On en avait un reflet en latin, d'ailleurs, de ces oppositions. Rouge n'existe pas, c'est rouge brillant ou rouge mat. Donc on est obligé de choisir. Et ce sont ces différences, dans le lexique comme dans la grammaire, qui fait la particularité de la description moderne de ces langues. Prenons l'exemple bien connu des classificateurs. Classificateurs, par exemple, du chinois ou des langues bantoues. Beaucoup de gens se sont extasiés sur ces classificateurs, qui sont des systèmes très séduisants, bien sûr. Il y a une classe pour les objets ronds, une autre pour les objets tubulaires, c'est-à-dire que je ne peux pas dire que je prends un stylo. Je dois dire que je prends un classificateur stylo. Je ne peux pas dire que je prends un ballon, je prends un classificateur ballon. Le classificateur des objets tubulaires s'applique au stylo, effectivement, mais aussi à tout ce qui nous paraît tubulaire, en y réfléchissant, les spaghettis, les pantalons, et une chose à laquelle on ne pense pas spontanément, les chiens bassets sont classés dans la même catégorie. Bon, d'où, évidemment, la façon de s'extasier sur ces classificateurs nominaux. Il y en a un en général pour les liquides, il y en a un pour les animaux à plumes, pour les animaux à poils, pour différentes marques de respect vis-à-vis des êtres humains. Et dans un très grand nombre de langues, vous avez une centaine de classificateurs, il faut les connaître. Vous ne pouvez pas parler si vous ne connaissez pas la distribution de ces classificateurs. Alors, le problème philosophique qui a été soulevé, c'est le problème de savoir si ces catégories de langues étaient en rapport avec des catégories de pensée ou pas. Est-ce que ça conditionne la perception ? Celui qui est obligé de distinguer le blanc mat et le blanc brillant, est-il amené à y accorder plus d'importance dans la perception ? Et alors, on a posé le problème en termes philosophiques à propos des catégories d'Aristote. Les fameuses catégories d'Aristote, dont une grande partie est fondée sur le prédicat de être, c'est-à-dire dans la citation que je donne ici, être là, être à tel moment, être en telle quantité, en telle posture, ça repose sur le fait qu'il existe en grec un verbe être unifiant. Mais on peut être amené à se dire qu'on a posé toutes ces catégories de l'être à cause de la langue, et que si on avait eu une langue comme une des langues du golfe du Bénin, voici la langue Ewe, parlée au Togo actuellement. C'est une langue dans laquelle on va faire éclater le verbe être. Il y a 6 verbes être extrêmement précis comme emploi. Être quelqu'un, être quelque chose. Un verbe qui dit l'existence, par exemple Dieu existe. Un verbe qui est le verbe être dans le sens de demeurer, être quelque part. Un verbe qui veut dire être composé de et qu'on emploiera pour les matériaux. Un verbe qui est utilisé pour les fonctions, fonctions sociales, être roi, être père. Un verbe qui est utilisé uniquement pour les qualités physiques, être maigre. Et vous ne pouvez pas vous passer de choisir entre ces 6 verbes. D'où l'idée que la notion même d'être, sur laquelle s'appuie la catégorie philosophique, est peut-être à mettre en question quand on passe à d'autres langues. Une partie de ces difficultés, je vous donne ici un petit exemple, une série de petits exemples pour le français, une partie de ce qu'on a appris dans les langues exotiques a été réinvestie dans les langues européennes. Exemple, le premier exemple qu'on ne voit peut-être pas très bien, c'est l'exemple qui est inspiré du japonais. En japonais, si je donne une traduction mot à mot, on ne dira pas que les oreilles de l'éléphant sont grandes. On dira l'éléphant, les oreilles sont grandes. Les oreilles, c'est un sujet. Et l'éléphant, ça porte une marque qu'on appelle celle d'un topique. Alors, ça a paru très exotique, très joli, mais on a la même chose en français. Et je vous donne un exemple de français parlé qui est « Moi, ma maison, les fenêtres sont toutes petites ». Alors, ce français parlé-là, qui est peu étudié d'habitude, c'est exactement la même distribution que le japonais. Et ça fournit une explication intéressante. On a vu que dans les langues africaines, il y avait une quantité de ce qu'on appelle des dislocations, mais on retrouve exactement la même chose en français, avec, par exemple, « elle ne m'a rien fait à moi, cette femme ». Le fait de répéter le « me » par « à moi » et « elle » par « cette femme ». Bien, c'est absolument la règle dans un très grand nombre de langues, pour nous, exotiques. Prenons l'exemple 3. Ici, la forme, disons, normale de la langue écrite serait « les pages » de ces livres ne sont pas découpés. Mais on entend dire sans arrêt, il y a des livres, les pages ne sont pas découpées. C'est mot à mot du chinois. Mot à mot. Il y a des livres, c'est le verbe avoir, et puis ensuite on dit les pages sont déchirées. De la même façon, si je reprends les classificateurs, un collègue chinois m'a fait observer que nous en avions en français, mais que nous ne voulions pas le dire pour rendre le français plus difficile. Nous disons un brin de persil, on ne peut pas dire un persil. On n'a pas le droit de dire je prends un persil, on doit dire un brin de persil. On ne dit pas un ail ni une ail, on dit une gousse d'ail. On ne dit pas un papier, on dit une feuille de papier, une feuille de métal même, un grain de blé, un grain de riz, un grain de tout ce qu'on veut. Et les amis chinois disent, ben voilà, des classificateurs, vous les avez, mais vous les cachez. Autre exemple qui a intéressé beaucoup les mathématiciens, dans certaines langues, on ne dit pas 2 et 2 font 4, mais 2 et 2 sont 4. D'ailleurs, on l'a dit en français à peu près jusqu'au XVIIe siècle. Alors, mathématiquement, le résultat est le même. Mais ça n'est pas complètement indifférent de savoir que certaines langues vont mettre le verbe « être » comme pour relier les deux, et que d'autres langues vont mettre le verbe « faire » comme le français contemporain. Et je connais des collègues mathématiciens qui préféreraient beaucoup qu'on en soit à l'étape précédente, 2 et 2 sont 4, et qui m'expliquent que ça serait bien mieux pour l'enseignement des mathématiques aux petits-enfants, ce qui est probable. Mais là, nous sommes dépendants de ce que nous avons dans nos langues. Donc, réinvestissement de ce qu'on a appris dans les langues exotiques dans les langues familières d'Europe occidentale. Et ça, je dirais que c'est le mouvement inverse de celui qu'on avait vu à la Renaissance, où on projetait au contraire les langues d'Europe sur toutes les autres langues du monde. Maintenant, le problème posé, un des grands problèmes posés, est celui de la relativité des notions. C'est là que les écoles linguistiques actuellement s'affrontent. Voici l'opinion d'un linguiste de Paris, Lazare, donc opinion toute récente. On parle de noms, de verbes, de sujets, d'objets, alors que nous savons à présent combien ces notions sont relatives. Du côté de l'école de Chomsky, on va utiliser noms, verbes, sujets, en disant que les différences sont minimes et qu'on pourra en rendre compte de façon secondaire. Pour un descriptiviste comme Lazare, au contraire, ces différences sont énormes. Donc la notion de sujet est au moins litigieuse dans beaucoup de langues, dit-il. Je vous ai montré un exemple avec ces langues qui ne mettent pas de sujet pour les verbes détrimentifs, les verbes à prédicat négatif. Ou bien la prédication a deux termes, ça c'est dans le champ philosophique déjà, la prédication a deux termes, sujet et prédicat, si naturelle dans nos langues qu'elle a été érigée en forme universelle par la logique classique, ne l'est pas en linguistique. Dans les langues d'Asie orientale, un mot prédicatif peut suffire, sans actant ni indice actantiel, à former une phrase complète. Autrement dit, la fameuse répartition sujet-verbe, sujet-prédicat, n'est pas universellement attestée dans les langues. À partir de là, il faudra prendre un certain nombre de positions et les débats sont actuellement très très vifs sur cette question. On peut se dire que ces notions sont assez secondaires, ces différences sont assez secondaires, c'est ce que dit l'école de Chomsky en parlant de paramètres. Il y a, dit-il, une grammaire universelle qu'on peut utiliser pour toutes les langues du monde en y adaptant des paramètres pour les particularités de chaque langue. Et des linguistes comme Lazare vont répondre que dans ce cas-là, on va perdre beaucoup des particularités intéressantes de chaque langue. Évidemment, derrière, il y a tout un débat philosophique que je n'aborde pas, que je laisse aux logiciens et aux philosophes, qui est important. Il y a aussi un traitement différent de notre relation au savoir linguistique. Dans une perspective comme celle de Lazare, on va se méfier beaucoup des gens qui parlent de leur propre langue. On utilise des informateurs pour décrire, par exemple, toutes ces langues d'Asie orientale, et on attend des informateurs qu'ils donnent des indications sur leur langue, mais pas des explications sur leur langue. On a l'impression que l'intuition que chacun a sur sa propre langue peut être très trompeuse. Je donne un exemple qui est bien connu, c'est que lorsqu'on interroge les gens dans quelques coins du monde que ce soit sur leur langue, surtout quand il s'agit de langues non écrites, les gens vont vous dire « moi je parle mal, je ne suis pas la bonne personne, allez voir un tel qui parle bien ». Si vous faisiez l'enquête en France, vous obtenez absolument les mêmes résultats. Essayez un jour de demander aux gens « est-ce que je peux vous interroger en tant que représentant de la langue française ?» parce que vous devez bien parler le français, en général, ils disent « Non, non, moi, non, je parle mal. Voyez un tel qui parle bien. » Ou bien, comme nous ont dit parfois des enfants auprès de qui nous avons mené cette expérience, des enfants d'une douzaine d'années, « On parle mal parce qu'on parle avec des fautes d'orthographe. » J'en dis petit. Donc, on peut se rendre compte que du côté des locuteurs, le rapport des locuteurs à leur propre langue n'est pas simple. Il est, par exemple, en France, parfois assez problématique. Mais du côté de la linguistique de Chomsky, on a essayé d'établir un objet intéressant qui est l'informateur idéal, le locuteur natif idéal. En disant que, mis à part toutes ces petites inquiétudes sur la langue, chaque locuteur, à partir de l'âge de 7 à 8 ans, était un représentant parfait de sa langue. Et évidemment, là, il y a quelque chose, il y a une intuition tout à fait intéressante, parce qu'il est vrai qu'à 7-8 ans, un enfant est déjà le représentant d'une bonne partie de sa langue. Il continuera à l'apprendre toute sa vie, mais il en sait déjà beaucoup. Donc, beaucoup de discussions actuellement roulent sur cette notion de compétence linguistique. Qu'est-ce que la compétence de sa langue ? Comment utiliser les informateurs de leur propre langue par rapport à ce problème-là ? Si je fais maintenant un point un petit peu sur ce qui se passe actuellement dans la linguistique actuelle, il y a un retour vers la linguistique descriptive. Je vous donne un exemple d'un texte assez célèbre de Sapir. Je pense qu'on le voit peut-être mal, je vais lire le passage qui m'intéresse. Il s'agit des enquêtes faites vers les années 1920-1930 sur les langues indiennes d'Amérique. Je précise un tout petit peu aussi la situation à l'époque. Ces langues étaient traitées de langues de sauvages, langues primitives, langues de sauvages. Et il se trouve que le raisonnement sur les langues, à la même époque, à partir des années 1930, servait de base en Europe à un certain nombre de théories racistes. Les langues indo-européennes, cette étiquette, a été prise comme base en Allemagne ou au Danemark, par exemple, comme base pour un raisonnement rapprochant les langues, les peuples, les morales, etc., et les vertus. Et on sait le succès que ça a pu avoir. Les linguistes comme Sapir se sont lancés dans une bataille pour montrer que le concept de langue primitive n'existait pas. Il n'existait pas de langue primitive, toutes les langues sont follement complexes et follement développées. Et il a voulu montrer que les langues indiennes d'Amérique représentaient une vue sur la réalité qui était tout aussi légitime que les autres vues sur le monde, mais en essayant d'expliciter la différence. Alors voici le passage que je trouve intéressant, c'est le passage d'une langue à une autre est parallèle, psychologiquement parlant, au passage d'un système géométrique à un autre. C'est-à-dire que le fait de changer de langue vous fait changer un certain nombre de coordonnées. Ça ne veut pas dire que ça vous oblige à voir le monde d'une autre façon, mais ça indique que ça influe tout de même sur les perceptions du monde. C'est ce qu'on a appelé la théorie de la relativité linguistique. Autour de cette théorie de la relativité linguistique, beaucoup de débats ont lieu actuellement. Alors, ils sont un petit peu renouvelés. Il y a des prises de position très violentes. Je vais vous en donner deux quand même. Ces prises de position un petit peu violentes. Voici, par exemple, un linguiste britannique qui va très loin, lui, qui dit « La véritable théorie du langage est qu'il n'y a pas de théorie générale du langage. » Alors ça, c'est fondamentalement anti-chomskien, bien sûr. Les seuls traits communs à toutes les langues humaines sont des conséquences prédictibles à partir des principes appartenant à d'autres disciplines établies, de telle façon qu'il n'y a aucune place dans le domaine intellectuel pour un sujet théorique indépendant nommé linguistique générale. Et on liquide. Ça liquide la notion même de linguistique générale. Un petit peu moins pessimiste quand même, mais faisant état des tensions, un linguiste parisien, Cuglioli, la linguistique est tiraillée entre l'observation myope et la spéculation sans borne. C'est un résumé rapide et concis de l'opposition que j'essaye de vous raconter. Cuglioli est évidemment placé du côté de l'observation qu'il espère ne pas faire trop myope, justement. Nous avons un développement à la suite de ces constats souvent pessimistes. Il y a eu un développement d'une autre dimension qu'on a appelée la typologie des langues. Alors, la typologie des langues consiste à regrouper les langues, par exemple, d'après des affinités qui ne sont pas forcément des affinités historiques, mais regrouper les langues qui ont le profil de langue agglutinante, regrouper les langues qui marquent des différences sensibles sur la notion de sujet, regrouper toutes les langues qui ont des classificateurs nominaux, regrouper toutes les langues qui ont tel type de caractéristiques en commun, et voir comment la typologie des langues permet de nouveaux classements. Alors, je vais vous donner ici, pour conclure, l'avis d'un africaniste français, Cressel, et ce qu'il dit pour faire une conciliation, disons, entre les deux grandes tendances. Il dit « On doit maintenant chercher à faire la description des langues en cherchant l'élaboration d'un système de concepts grammaticaux applicables à la description d'un maximum de langues. » Lui travaille surtout sur les langues mandingues en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire un système de concepts grammaticaux applicables à la description d'un maximum de langues? Ça veut dire qu'on ne peut plus se satisfaire, pour lui, de notions comme nom, verbe, adjectif, adverbe, ou de notions de fonctionnel comme sujet, complément, qui ne sont pas suffisantes pour la description des langues et qui risquent de trahir les langues qu'on va décrire. Donc, il faut un appareil plus compliqué que cela. Donc ça, c'est pour aller du côté de la diversité. Maintenant, il affronte le problème diversité et universalité de cette façon-là. Comment raisonner sur l'adéquation des techniques de la linguistique descriptive? Alors, les techniques de la description linguistique, j'y ai fait allusion très brièvement tout à l'heure à propos de l'analyse distributionnelle. Dans le détail, c'est évidemment assez complexe. Et il y a tout un attirail de techniques de description qu'il faut connaître quand on part à la description de langues peu connues. Comment raisonner sur l'adéquation des techniques de la linguistique descriptive sans se référer à une hypothèse générale sur la structure des langues? Donc il faut une hypothèse générale sur la structure des langues, bien sûr. Mais d'autre part, dit-il, comment peut-on prétendre élaborer une hypothèse sur la structure des langues sans tenir compte de l'expérience de la description des langues accumulée depuis des siècles? Alors, Denis Cressel est un de ceux qui essayent de tenir la balance entre les deux grandes tendances qui se font là. À partir du concept que j'évoquais tout à l'heure des langues en danger, ces langues amazoniennes, par exemple, le Brésil est en train de lancer tout un programme et de formation de jeunes pour les envoyer décrire les dernières langues amazoniennes qui risquent de disparaître sans avoir été décrites sous nos yeux dans les prochaines années. De même, il y a des appels pour décrire les langues du Caucase, dont certaines, Dumézil disait qu'il apprenait la mort de son plus jeune informateur d'une des langues du Caucase, et l'informateur avait 110 ans déjà, et c'était le dernier. Et Dumézil pleurait la disparition de cette dernière langue. Il faut savoir qu'il y a des langues, par exemple, dans les langues amazoniennes, il y a des langues qui n'ont jamais été écrites. Donc si elles disparaissent, c'est définitivement. Et on aura perdu, non pas seulement une langue d'Amazonie, on peut se dire que, puisqu'il y en a 500, on en perd une, c'est pas grave, mais de la part des spécialistes, ce qui est très grave, c'est qu'en perdant une langue, on perd une de ses vues sur le monde, une de ces organisations intellectuelles qui sera à tout jamais irremplaçable. Donc, actuellement, ces gens-là, ces descripteurs-là, estiment que la description des langues n'est pas terminée, que donc la linguistique descriptive a encore du travail, qu'il faut former de toute urgence de jeunes linguistes capables de la faire avec les méthodes modernes. Et ce qu'ils regrettent souvent, c'est que les linguistes d'aujourd'hui n'aient pas les immenses moyens que les missionnaires protestants avaient vers les années 1930. Merci.
Signalez-vous.
commencer et puis ensuite...
Lorsque j'étais, j'ai vécu un moment en Afrique et j'ai entendu parler, je ne sais pas de quel peuple il s'agit ou d'une ethnie particulière, qui était dite ne s'exprimer que sous forme de... Enfin, la langue était uniquement faite de proverbes sous forme d'énigmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe, des langues comme ça? Et est-ce que ça existe encore? Est-ce que vous en savez quelque chose?
Oui, pour vous répondre, j'aurais besoin de savoir qui a dit cela. Ça m'a l'air un petit peu un fantasme. Il est possible, bien sûr, que dans certaines cultures, le goût pour le parler par énigme soit très développé et qu'on en soit très étonné. Mais il me paraît très étonnant que dans la même langue, on ne puisse pas, une mère ne puisse pas s'adresser à son enfant. Ça me paraît un tout petit peu étonnant, je demanderai à vérifier.
Oui, je suppose qu'on a étudié longuement le rapport qu'il pouvait y avoir entre la culture et la langue. Vous en avez un petit peu parlé. Par exemple, quand vous dites il y a plusieurs verbes pour être dans une langue, est-ce que ça a un lien avec la culture?
Oui, à un premier niveau, certainement, bien sûr. D'autant qu'en général, les gens de cette langue jouent avec ces verbes, jouent avec cette dispersion du sens. Comme ça, ils en sont en général parfaitement conscients. Ils trouvent que nous sommes bien pauvres avec un seul verbe être. Ils n'osent pas le dire en général, mais ils le pensent. D'accord ? Je suis incapable de savoir, votre question va plus loin que ce que vous dites, je suis incapable de répondre pour savoir si ça informe la pensée des gens. Ça, c'est autre chose. C'est le problème en débat actuellement.
Pour ce qui est du vocabulaire, oui. Vous avez dit, plus exactement, le vocabulaire n'est pas tellement traité puisque ce n'était pas votre sujet, mais oui. on sait que la richesse d'un vocabulaire est fonction de l'adaptation de ce vocabulaire à l'environnement. Si on prend par exemple les gens de le Grand Nord, ils ont énormément de mots pour traduire la glace. Est-ce que ce phénomène d'adaptation se retrouve pour ce que vous avez décrit, c'est-à-dire pour en linguistique descriptive?
Oui, c'est même un des thèmes de la linguistique descriptive, celui dont vous parlez, c'est-à-dire le très grand nombre de mots pour dire glace et neige dans la langue inuite, par exemple. Et on s'est beaucoup extasié là-dessus. Évidemment, il y a une adaptation, ils sont obligés de différencier quantité d'espèces de neige et de glace. Dans un de ses ouvrages récents, Henriette Walter a fait un rapprochement amusant. Elle dit « Ne vous étonnez pas tellement ». Ça n'est pas tellement exotique. Regardez le nombre de mots pour désigner les pâtes en italien. On ne dit pas pasta. On entre tout de suite dans le détail et elle donne 3 pages et demie de noms de pâtes que tout le monde connaît en Italie, effectivement. Donc, c'est peut-être un petit peu ce procédé adaptatif. Maintenant, votre question est une question importante pour les langues en danger. Il est certain qu'à partir du moment où ce qu'on appelle les langues en danger, au-dessous d'un certain nombre de locuteurs, il n'y a plus cette faculté d'adaptation. Et par exemple, plus cette faculté de s'adapter à des objets nouveaux ou de désigner commodément des objets nouveaux. Donc, on voit quelque chose, les spécialistes de ces langues parlées par des minorités connaissent le danger que vous signalez là.
Oui, j'aurais une question sur la diversité des langues. Vous avez dit qu'il y avait une diminution de la diversité, perte constamment donc de langues. Il y a création de langues, à la limite, comme en spéciation, en biologie. J'aimerais savoir, à l'heure actuelle, donc, est-ce qu'on va vers une diminution et est-ce qu'on peut envisager qu'il n'y aurait plus qu'une langue à la fin?
Une langue, non, sans doute pas, mais ce que craignent les spécialistes et ceux qui misent sur la diversité pour connaître mieux le phénomène de langage, oui, ils ont très peur d'une diminution. Et ils font, par exemple, certains font cette prédiction, 90% des langues du monde risquent de disparaître dans une génération, ce qui est épouvantable à penser, bien sûr. Il y a des langues naissantes. Ce sont les langues qui naissent, qu'on appelle parfois les langues émergentes, on en voit naître en Afrique, à partir de mélanges de langues, de créolisation, de pidginisation, etc. Mais ça se fait sur une longue distance, donc on ne sait pas lesquelles vont résister. Mais il aurait fallu parler effectivement de quelques langues naissantes. Mais les langues naissantes ne compenseront pas la disparition, je ne pense pas.
Alors, voilà, lors de la conférence d'hier, la conférencière a parlé de principalement deux types de langues, les langues à complément, je crois, et puis les langues miroirs. Enfin, les langues miroirs, notamment le turc, le japonais, et puis pour les langues comme le français et l'anglais, qui étaient des langues à complément, je crois. Alors, est-ce que cette découpe en deux est adéquate? C'est-à-dire, on peut justement faire cette découpe-là pour, elle parlait de toutes les langues qu'on pouvait classifier ou d'un côté ou de l'autre au niveau grammatical, justement. Et juste la deuxième petite partie de la question, c'est au niveau de la langue turque, que je connais bien, j'ai l'impression que tout ce qui est conjugaison, etc., est quasiment inné, se fait sans apprentissage, dès le plus jeune âge. Voilà, merci.
La division entre langue à complément et langue miroir, oui, elle est intéressante. On en a proposé beaucoup d'autres, disons que ce n'est pas la seule. Votre remarque sur la conjugaison dans une langue que vous connaissez bien est tout à fait intéressante. Vous dites cela parce que vous connaissez le turc. Si vous observez un enfant français, il en sait de la conjugaison à un certain âge. Il le sait avant d'être allé à l'école. On peut faire réfléchir les enfants français à l'âge de 4 ou 5 ans sur l'incroyable connaissance qu'ils ont des formes verbales avant même qu'on ait parlé de formes verbales devant eux. Donc, c'est cette connaissance innée, très jeune, qui vraiment fascine tout le monde. Comment est-ce possible qu'à 5 ou 6 ans, on sache tellement de choses? Et effectivement, sur la langue turque, on est jaloux quand on essaye d'apprendre le turc de l'extérieur et qu'on voit passer un gamin de 3 ans qui vous conjugue ça comme ça, on est très jaloux. Et on sait que jamais, à l'âge adulte, on aura la même agilité. Cette agilité semble s'arrêter à l'âge de 6 à 7 ans. On n'acquiert plus des langues avec cette agilité passé l'âge de 7 ans.
Excusez-moi de vous poser, de la part d'un étranger, une question sur le français que voici. On dit, la linguistique, je la connais.
Oui.
Mais le français parlé peut dire aussi, la linguistique, ça me connaît. La linguistique, ça me connaît. En français populaire, comment est-ce possible ce genre de permutation de rôle? Et je suis émerveillé de cette liberté et expressivité. Merci.
Oui, c'est une très jolie question. C'est une très jolie question. Les Français ne s'extasient pas suffisamment sur la beauté de ces choses-là. Je suis bien d'accord avec vous. Ça prendrait un petit peu trop longtemps à expliquer, à analyser. Mais il y a des explications historiques. On voit la tournure se dessiner au cours de l'histoire du français. Mais nous en avons beaucoup de très jolies comme ça.
Voilà, je vais parler un petit peu... Ah, il y a quelqu'un?
Excusez-moi. Allez-y. Vous avez parlé donc des langues, de leur multiplicité, oui. Mais à travers l'étude de la description de ces langues, est-ce qu'on ne peut pas rechercher une langue originelle, la première?
Oui, ça c'est un grand mythe, bien sûr, la langue originelle. Pendant très longtemps, c'était un sujet tabou. C'est au point que dans les statuts de la Société de linguistique de Paris, on refuse toute communication sur ce sujet depuis sa fondation. Mais c'est un petit peu moins tabou maintenant parce qu'on commence à reposer la question des langues originelles à partir d'autres analyses que linguistiques, à partir de l'étude de la génétique des populations. Par exemple, il y a eu un ouvrage assez retentissant ces dernières années. Pour l'instant, ce sont des hypothèses. On n'est plus du tout sur les pistes d'avant. Vous savez qu'avant, on pensait que c'était l'hébreu, la langue originelle, mais il y a des gens qui ont soutenu que c'était le bas-breton, en faisant des expériences pour le prouver. Bon. Donc maintenant, on est devenu quand même un peu plus prudent là-dessus, et je ne peux pas vous donner de réponse. On n'est pas sûr qu'il y ait une langue originelle, le débat est là. C'est un peu comme pour l'origine des espèces. Est-ce qu'il faut poser une langue originelle, ou bien y a-t-il eu, dans plusieurs endroits du monde, la naissance du langage de façon simultanée? C'est cette question, pour l'instant.
Voilà, je peux y aller. Voilà, et donc moi je vais donner un petit peu mon expérience de chilienne. Et moi je suis retournée au Chili après 19 ans d'absence, ce qui fait un choc, puisque j'avais adopté des comportements français, malgré que peut-être vous ne les voyez pas, mais moi je les vois bien. Et il y a la moitié de moi, au moins, qui est française. Oui. Je pleure quand il y a la Marseillaise le 14 juillet. Et pour moi, c'est une preuve. Et donc, j'évolue depuis l'âge de 14 ans. Et j'ai aimé ce pays et je voulais absolument arriver. Et je suis arrivée. Voilà. Et donc, une fois que j'étais là, j'ai essayé de m'adapter à toute force, coûte ce que coûte. Et c'est là, ça a passé par la langue, bien sûr, et ça a passé, la meilleure façon d'apprendre la langue pour moi, c'était venir tous les jours au cours, au conservatoire, et suivre tous les cours possibles. Voilà, donc j'ai fait tous les efforts nécessaires, et quand je suis arrivée donc, à mon pays, et je me suis rendu compte que j'avais perdu pas mal de choses, dont une... Et c'était une certaine vitesse de connexion et très rapide au niveau de la sensation, c'est-à-dire le langage non parlé et qui est très communicant et très rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire un mot pour savoir ce qu'on pense tout un groupe en même temps. Et ça, cette vitesse-là, je l'avais perdue, j'avais du mal à me mettre dedans. Et je l'ai senti comme une perte énorme. Et ça, c'est la première chose. Et d'autre part, je me suis rendu compte que ma voix, elle était grave. Comme vous l'entendez là, elle est grosse, elle est grave. Elle est presque masculine. Autant qu'avant, je parlais comme les Chiliennes, c'est-à-dire je parlais ce que j'ai dit. Je l'appelle ça, j'ai parlé dans l'endroit des merveilleux. Hein? Donc, en fait, c'était comme si, à force de vouloir m'adapter, j'étais sortie des paysages des merveilleux et des naïfs et des papillons. Mais de notre côté...
Vous pouvez poser une question, s'il vous plaît.
Oui, j'arrive.
Allez-y, vous.
Et donc, j'avais perdu ces deux choses qui étaient essentielles. Et tout d'un coup, je me suis dit, en allant à la maison d'Amérique latine l'autre jour, il faut absolument que je récupère tout. Et là, je voulais savoir s'il y a des études qui ont été faites, en fait, de la relation qu'il y a entre ce qu'on perd dans une langue et comment, qu'est-ce qui se passe à niveau de neurones, et qu'est-ce qui se passe à niveau de la complexité, et qu'est-ce qui se passe, et bon. Quelles sont les connexions.
D'accord, merci. Voilà.
Excusez-moi, c'était un peu long.
Dans ce que vous avez dit, il y a un très joli hommage à la langue française, nous y sommes tous très sensibles. Vous parlez d'une expérience d'émigré, et vous parlez de l'émigré qui a perdu sa naïveté, qui a subi une mutation qui peut aller jusqu'à la forme sonore de sa voix. Ce sont des choses qui ont été étudiées parce que ce siècle a vu beaucoup, beaucoup d'émigrations. Il y a des gens qui ont perdu leur langue maternelle totalement, pour qui le concept de langue maternelle n'a même plus de sens, qu'ils retrouvent parfois en rêve et qui n'arrivent plus jamais à retomber sur leur langue. Et bon, c'est le témoignage d'une émigration. Je pourrais vous donner des indications sur les études qui ont été faites. Je ne pense pas qu'on ait poussé jusqu'aux neurones, mais il y a eu des études sur ces récits d'émigration.
Oui, bon, bonjour. Dans le préambule de votre exposé, vous avez parlé de l'analogie entre les langues et les espèces vivantes. Oui. Au-delà de l'indécidable question de l'origine, est-ce que cette analogie vous semble avoir été féconde ? Est-ce qu'elle est plus prodigieuse que vertigineuse, pour reprendre le titre du petit opuscule de M. Bouvresse ?
C'est une analogie utile. C'est une analogie qui a été un défi, qui a poussé les gens à travailler, qui a poussé les gens à proposer des universaux moins concrets, plus raffinés que ceux qu'on avait posés avant. Comme vous avez vu, il y a des gens qui refusent énergiquement tout rapprochement entre les espèces animales et les espèces linguistiques, bien sûr. Mais le problème posé de relation entre diversité et universalité doit être posé quand même. Alors, je pense que c'est une des questions passionnantes qui vont se développer sous mes yeux dans les années qui viennent. Je pense que vous aurez réponse à cette question d'ici une dizaine d'années.
Bien. On va prendre encore deux questions en haut.
Bonjour, madame. C'est une question un peu philosophique.
Je vois pas.
C'est une question un peu philosophique, mais vous avez tant apporté à la philosophie en tant que linguiste que l'on peut très bien nous permettre de vous renvoyer une petite question pour vous dire, est-ce qu'il est aisé de distinguer et de hiérarchiser d'une part les perceptions et les pensées et d'autre part les langues qui les expriment? Parce que spontanément, nous avons toujours tendance à lier les mots et les choses comme les deux faces d'une médaille. Alors comment la description peut-elle être possible là ?
Oui, c'est toute la difficulté justement de cette description, du problème posé. Il n'est pas le même selon qu'on envisage le vocabulaire seulement ou qu'on envisage la grammaire. Le vocabulaire, on peut avoir conscience des problèmes assez facilement. Et on peut trouver des traductions du vocabulaire. Tous les traducteurs connaissent ces problèmes de décalage dont j'ai parlé. On peut trouver des équivalents. On peut même trouver des équivalents aux 350 noms des pâtes en italien. Pourquoi pas ? Pour la grammaire, c'est beaucoup plus difficile. Pour la grammaire, trouver des traductions, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Or, dans la typologie des langues telle qu'on la voit aujourd'hui, on pense que la grammaire peut conditionner, dans une certaine mesure, la perception. La conditionner, pas la contraindre complètement, mais un petit peu comme on le voit dans les expériences de traduction, si vous voulez. Donc je vous renverrai un petit peu à tout ce qu'on a dit sur la traduction. Est-ce que dans la traduction, on perd une partie de la perception, par exemple ? C'est un problème à poser dans cette direction-là.
Dernière question, voilà. Monsieur.
Alors, moi, je suis désolé, ma question va être double. J'en ai deux différentes. Oui. La première, très vite, c'est... Bon, j'ai autour de moi des enfants qui apprennent en même temps trois langues, savoir le français, l'anglais et le chinois, et qui font extrêmement bien la différence entre les trois. Donc avant 6 ans, je suis complètement surpris par ça. J'aimerais savoir s'il y a le moins de témoignages là-dessus. Et ma deuxième question, qui rejoint un peu la précédente, concerne d'autres problèmes linguistiques sur les jeux de mots, qu'on fait énormément en français. J'aimerais savoir à quel niveau est-ce que ça se transmet d'une langue à l'autre, et si cet humour a des équivalents ou non.
Bon, deux bonnes questions sur lesquelles il faudrait passer beaucoup de temps. Alors, le témoignage sur les enfants qui, à moins de 6 ans, dites-vous, sont sur une langue comme le français, l'anglais et le chinois. Oui, c'est une merveille à voir. Et il y a des régions du monde dans lesquelles on peut observer de façon absolument courante des enfants qui sont à cheval sur 4 langues, parfois 4 alphabets différents. J'ai vu des petits-enfants mettre dans leur cartable des cahiers écrits dans 5 alphabets différents. À l'âge de 6-7 ans, en toute tranquillité, ils étaient brillants. Alors, le multilinguisme très jeune, ce n'est pas une question de langue, c'est une question de la façon dont on vit ce rapport des langues. Si une de ces langues est traitée comme mineure, malheureuse, on sait que ça va avoir des conséquences, comme une langue inférieure, par exemple. Mais si ce sont 3 grandes langues, comme ces 3 langues-là, l'anglais, le chinois, le français, pour des raisons différentes, soit 3 grandes langues à prestige, je pense que les enfants sont à l'abri de tout ennui de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est une merveille de les voir acquérir ces 3 langues jusqu'à l'âge de 6-7 ans, alors que vous pouvez courir derrière quand vous avez l'âge adulte et vous n'y arrivez pas. Les jeux de mots, question très importante, elle est en partie liée à la structure des langues. Donc, dans cette mesure-là, non, il n'y a pas de transfert d'une langue à l'autre. Et par exemple, il y a un problème compliqué, nous faisons des devinettes et des charades en français. Apparemment, ça ne passe pas en chinois, pas facilement. Hein. Le problème des charades en chinois est incompréhensible à peu près. Et nous savons qu'il y a quantité de jeux de mots qui sont liés très étroitement à la structure phonétique des langues ou à la structure des mots, à l'organisation des mots en syntagme, etc. Donc c'est très peu traductible. Merci.
Merci.